Un marin perdu dans un roman, un clandestin sur un embarcadère, un midi qui se prend pour l'Orient, un supertanker des amours passagères. Un bateau qui ne part pas, un bateau qui ne part pas, pour que les autres puissent partir. Mais il y a toujours un port à découvrir, un port naturel, un port export, un port de complaisance, un port de la dernière chance, un havre de paix, un port aux eaux dormantes, un port aux eaux profondes, un port polyvalent, un port autonome, un port du casque obligatoire. Le casque obligatoire, la zone interdite, la zone de transit, au-delà de cette limite.
Vous écoutez Radio Pays d'Hérault, il est exactement 10h et on retrouve tout de suite l'émission d'Olivier Notal, album d'histoire. She loves you, yeah,
yeah, yeah. 2000 years ago, the proudest poet was Iwis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest poet is Ich bin ein Berliner.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante, on n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families and America. Thank you very much.
Ça y est. Le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylone. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non. Album d'histoire.
Show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entend les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Arnaud de son vrai nom, Arnold Charles Ernest Ingens. Arnaud est un chanteur et un acteur belge, né le 21 mai 1949 à Ostende. C'est un trilingue, il manie aussi bien le français que l'anglais ou bien sûr le néerlandais. Il a souvent été nommé le Higelin belge, le Nouveau Brel ou le Tom Waits d'Ostende. Pour illustrer Arnaud, j'ai choisi un best-of, donc c'est pas un album qui a une date particulière, ça s'étend sur une dizaine d'années en fait de sa carrière, mais pour illustrer comme année, j'ai choisi disons un point médian. Donc on va parler de l'année 2004. Et pour parler de cette année, je vais vous lire quelques bribes d'articles parus dans la revue Politis. Et les propos, la plupart de ceux que vous allez entendre, sont ceux de Denis Pfeiffer, Bernard Langlois aussi, qui à cette époque-là participait encore activement à Politis. Alors d'abord, on va écouter la première chanson de Arnaud. Allons-y. Compare à pas mal de chanteurs, mais je crois que Arnaud, il ressemble surtout à Arnaud. Et c'est cette voix tout à fait étonnante qui nous emballe tout de suite. Et ces mots aussi, cette façon de jongler avec les mots. On peut aussi avoir une certaine filiation avec Alain Bachung. Il arrive que les événements qui font l'actualité de 2004 n'aient de prime d'abord aucun sens. Et que, pauvres humains, nous soyons incapables de leur trouver une explication. On les range alors activement dans la catégorie « accident »,« catastrophe ». Et on invoque toujours la fatalité. Mais on se résigne inégalement à un tel renoncement. La catastrophe aérienne qui vient de se dérouler au mois de janvier à Sharm el-Sheikh, en Égypte, témoigne ces jours-ci d'une remarquable pugnacité collective à rechercher les causes. Nous voulons savoir pourquoi, comment, la faute à qui. L'exigence est évidemment légitime et c'est tout simplement un droit. Et on devine aussi les ressorts psychologiques en remettant un peu de rationalité dans un événement qui nous échappe totalement. On a le sentiment de réduire la part d'absurde qui constitue de toute façon l'autre versant d'un drame. Ça, c'était pour le mois de janvier. Donc on continue toujours au mois de janvier, mais à la fin de ce mois de janvier. En moins de 24 heures, deux événements viennent de mettre en évidence la crise de la société française. Samedi après-midi, quelques 20 000 manifestants ont battu le pavé de nos villes pour protester contre la loi interdisant le port du voile à l'école. Mais cette manifestation, qui dans un autre cadre est appelée par d'autres, aurait pu s'inscrire dans le débat démocratique, fut communautarisme et haineuse. Au cours de la nuit suivante, le nouveau préfet, Aïssa Dermouche, promis par les médias modèle de l'intégration réussie, échappait à un attentat à l'explosif qui avait détruit son véhicule dans une rue de Nantes. Si on ne sait toujours rien aujourd'hui de cette tentative d'assassinat, on peut tout juste avancer que cet événement a vraisemblablement au moins un lien avec le précédent. Le climat créé par un débat piégé autour de la communauté musulmane. Vous voyez qu'en 2004, on parlait de choses qu'on en parle en 2011. Remarquez, c'est tout à fait normal. Il y avait un certain ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Alors, pour passer à autre chose, on va écouter, bien entendu, un deuxième extrait de ce formidable chanteur belge qui s'appelle Arnaud.
Bien sûr, il y a la guerre d'Irlande. Il est peuplade sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il y a plus d'Amérique. Sur l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur, vous montez. fleurs. Mais voir un ami pleurer, bien sûr, il y en a des faits.
Alors Arnaud, en plus de son talent personnel, est aussi un extraordinaire. Il remet une chanson autre part. C'est pour ça que la comparaison avec Bachung, je la maintiens, parce que Bachung aussi avait ce don de faire ressurgir une chanson qu'on connaissait par un autre interprète et en faire autre chose. Ben Arnaud, c'est ça, avec « Voir un ami pleurer », donc de Jacques Brel. Revenons à 2004. Je me souviens d'une maison un peu sombre et tarabiscotée, accrochée sur un flanc de la butte Montmartre. Nous étions venus le filmer chez lui. C'était pour un journal d'Antenne 2, à l'occasion de je ne sais plus quelle rentrée à l'Olympia ou ailleurs. C'était au début des années 80. Il était au sommet de son art, au sommet de sa gloire. Le talent en moins, j'aurais pu peut-être même moi le remplacer au pied levé dans son répertoire tellement je le connaissais. De « La petite fille en pleurs » au « Don Juan » de « Cécile » à « Paris-Mai ». En passant par le cinéma, la pluie, le jazz et la java. Je les avais tant de fois braillés les soirs de bamboche de mes années étudiantes. Je me souviens aussi d'une java, justement, un soir d'été, qui s'était terminée fort tard dans une ruelle du côté de la Bastoche. Nous sortions d'une brasserie célèbre et il nous avait royalement traités. Cet homme-là savait ce que manger voulait dire, boire aussi, rire surtout. Nous étions quatre ou cinq convives, aussi joyeusement biturés, bien entendu, que sous le balcon de Marie-Christine. Vous avez reconnu, bien entendu, c'est un hommage de Bernard Langlois qu'il rend à Claude Nougaro, car en 2004, Claude nous quitte. 2004, terrorisme. Nous sommes un 11 mars de cette année-là, et il va y avoir un cataclysme de l'autre côté des Pyrénées. Ah eh oui. Le pire et le meilleur de notre monde se sont côtoyés dans ces journées espagnoles qui vont du petit matin tragique du jeudi 11 mars à la folle soirée électorale de ce même dimanche, mais 14 mars. On aurait aimé s'en tenir juste à la leçon de démocratie infligée par un peuple à un gouvernement menteur, manipulateur. On aurait aimé pouvoir se réjouir sans restriction de cette soudaine mobilisation d'un électorat jeune surgissant dans un scrutin où il n'était vraiment pas attendu et faisant in fine triompher la morale publique. Hélas, la leçon est amère. Qui peut oublier que le point de départ de ce sursaut démocratique est en effet l'événement le plus antidémocratique, c'est-à-dire le plus hostile au peuple qu'il ne puisse imaginer. On ne peut pas passer sous silence cette sorte de corrélation honteuse entre les bombes d'Al-Qaïda et la défaite électorale de la droite espagnole. Car il est inutile de tricher avec les mots, c'est évidemment le terrorisme qui a bouleversé en quelques heures toute la donnée politique espagnole. Et non pas le contraire. Ce sont les bombes de Madrid qui ont inversé ou fortement contribué à inverser le résultat d'une élection. Avec l'Espagne, le terrorisme est entré plus profondément que jamais dans notre vie politique, transformant la barbarie en élément de tactique électorale. Certes, il aura fallu pour cela la grossière malhonnêteté d'un Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur, qui se sont employés au-delà de l'imaginable à exploiter la tragédie pour des fins partisanes. Les électeurs n'ont pas supporté cet ultime mensonge. Messieurs Aznar et son dauphin désigné, Mariano Rajoy, l'ont payé et ils l'ont payé cash. On va revenir avec notre chanteur qui illustre cette année 2004 tout en étant sur certaines chansons de 2001, d'autres de 2003-2004. Hein. On va écouter Arnaud.
Depuis que je suis sur terre, j'ai les yeux de ma mère, j'ai le reste mon père, et ça vaut mieux que le contraire. Moi, je reste dans mon lit, je ne bouge plus d'ici, je ne veux pas être grand. Jamais adolescent, il ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Il doit parler à Dieu pour être beau. Le soir il regarde la télé. La télé dit la vérité. Moi je reste dans mon lit, je ne bouge plus d'ici. Je ne veux pas être grand. charmé, adolescent. Je ne veux pas être grand, charmé, adolescent.
Là aussi, il y avait peut-être quelque chose de Claude Nougaro dans cette chanson, donc vous voyez Arnaud comme il est multifacette. Revenons à 2004. Nous sommes cette fois-ci au début du mois d'avril de cette année-là. On sait qu'il existe dans la religion catholique un sacrement appelé confirmation. Il s'agit pour le pratiquant, généralement un adolescent qui a fait sa communion solennelle, de renouveler ses vœux en bon chrétien un an après les avoir prononcés. C'est l'évêque du diocèse qui officie. Enfin, c'était comme ça il y a longtemps, maintenant je ne sais plus très bien. Et le rite veut qu'il donne une petite gifle paternelle à chacun de ses impétrants. En confirmant dimanche dernier leur vote du 21 mars, les électeurs ont respecté le rite. Mais en l'inversant, c'est l'évêque du Poitou qui a pris une baffe, une gifle, une grosse baffe. Cet évêque du Poitou, vous l'avez reconnu, c'est M. Raffarin qui est Premier ministre à cette époque-là. La gauche ne pouvait imaginer même pas dans ses rêves les plus fous victoires aussi écrasantes. La carte de la France est rose, de la pointe du Rhin jusqu'aux Vosges, et l'Alsace faisant un peu bande à part, mais elle n'est plutôt plus zélérienne que de droite. Du plat pays nordiste aux calandes méditerranéennes, avec encore une certitude pour la Corse comme d'habitude, sans oublier les confettis de l'Empire, même la Guadeloupe a basculé à gauche. Qui aurait prédit des aveux plus cinglants de la politique menée depuis 2 ans par ce gouvernement sans entrailles, oubliant ses promesses de cohésion sociale, d'un président élu en 2002, Jacques Chirac, par une écrasante majorité républicaine contre Jean-Marie Le Pen. Il a été élu par les deux bords parce qu'il était le seul en situation de barrer la route au tribun borgne. Et qui s'est cru autorisé par ce vote à mener, sous couvert de réforme, une politique de classe dictée par le patronat, outrageusement favorisant les catégories aisées et le clientélisme boursier, scandaleusement pénalisante pour les moins bien lotis de nos concitoyens. Certes, on s'attendait bien à un vote sanction, mais tous on savait qu'il y aurait de la colère. Mais à ce point, aussi dévastateur pour la majorité, ses partis, ses hommes, pas un ministre en course qui n'y échappe. Même Fillon, tiens Fillon. Fillon qui était ministre à cette époque-là dans son fief de Loire, qu'on pensait inexpugnable, même de Robien en ses terres picardes, le mirobolant muselier en Provence, où Vauzel avait promis la déroute, ou ce brave Delevoye, balayé dans le nord Pas-de-Calais, ou encore Copé. Vous savez, Copé, ça vous dit quelque chose, hein. Le porte-parole, même pas capable de sauver l'honneur de la droite face à un pâle Huchon en Ile-de-France. Une déculottée magistrale. Jusqu'à Giscard, emporté dans une coulée de lave en Auvergne, victime du combat de trop. Eh oui, il commençait déjà à être bien âgé pour se présenter, ce pauvre Valéry. Ou Jocelyn de Rohan, défait dans la reture de son duché de Bretagne. Et que dire de la royale Ségolène, dans le fief même du Premier ministre. La victoire était certaine au soir du premier tour, elle est superlative au soir du second tour. Même Chasseneuil s'est rallié à la nouvelle reine du Poitou. Ah et oui, et nous sommes en 2004 et nous approchons de l'échéance électorale suivante. Jacques Chirac étant élu en 2002 et c'était le premier quinquennat, avant c'était un septennat. Donc en 2007, il va y avoir des élections. Et vous qui connaissez l'histoire, vous saurez que la cheftaine du Poitou-Charentes, notre charmante Ségolène, sera la candidate du Parti Socialiste et arrivera au deuxième tour contre un certain Nicolas Sarkozy qui lui est ministre de l'Intérieur à vie pour le moment. Après, il va se retirer progressivement, mais quoique, on peut dire qu'il est toujours ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, puisque souvent il met à ce poste-là des amis vraiment tellement proches de lui, dont le dernier en cause, là, M. Guéant, vous savez, c'était un conseiller à l'Élysée qui, je suis sûr, c'était lui qui faisait beaucoup de la politique de Nicolas. Et bien Nicolas l'a mis à l'Intérieur, comme ça il est sûr d'être et à la présidence et à l'Intérieur. Revenons à notre ami Arnaud. Et Arnaud va vous interpréter, alors là, encore une chanson qu'il a reprise, une chanson des Rolling Stones, puisqu'il parle aussi bien, comme on a dit, anglais, néerlandais et français. Là, c'est en anglais.
«
kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of a mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she burns her frozen steak, and goes running for the shelter of a mother's little helper. And to help her on her way, gets her to her busy day.
Alors ça ressurgit de la fin des années 60, cette interprétation donc du Mick Jagger d'Ostende. Le Mick Jagger d'Ostende, Arnaud. Après tout, on l'a bien comparé à d'autres. 2004, Bush, vous connaissez ? George, le fils. Sharon, vous connaissez ? Alors les moins crédules seront peut-être tentés de minimiser par dépit la dernière sortie de George W. Bush. Après tout, en apportant son soutien au plan d'Ariel Sharon, le président des États-Unis n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. La droite nationaliste israélienne et les néo-conservateurs américains forment idéologiquement un seul et même parti. Donc, ben voilà, on le savait un petit peu, mais on en a confirmation. Leurs leaders sont portés par le même culte de la force brutale, le même dédain pour le reste du monde, Europe comprise, et un souverain mépris par tout ce qui peut ressembler au droit. Avec une différence toutefois, un fond d'illumination messianique rend vertueux cette conception primitive aux yeux du président américain, alors qu'en parfait cynique, Ariel Sharon n'a pas même besoin de ce genre de réconfort. Un nationalisme borné lui suffit. Certes, le discours de George W. Bush, prononcé devant son hôte israélien, ne nous apprend donc rien sur les projets des deux hommes, ni sur eux-mêmes d'ailleurs. Et pourtant, il transforme profondément la donne du conflit israélo-palestinien, car c'est une chose d'enfreindre le droit tout en l'invoquant, ce que Bush Jr. faisait jusqu'ici. Et c'en est une autre de proclamer à la face du monde que le droit n'existe pas. Or c'est exactement ce qui vient de se faire. Le 15 avril 2004, un président des États-Unis a publiquement déchiré les résolutions de l'ONU, qui depuis 37 ans servait de référence commune à toutes les négociations internationales. En affirmant que les frontières de 1967 n'étaient plus réalistes, George W. Bush a validé, de fait, l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Il a entériné des conquêtes coloniales israéliennes réalisées pendant le processus d'Oslo, c'est-à-dire en contrebande d'un accord de paix qui devait les interdire. Il a donné sa bénédiction à une pratique rampante et frauduleuse qui, depuis 1967, transforme en marché de dupes tous les colloques, toutes les conférences et tous les accords qui ont jalonné l'histoire de ce conflit sans fin. Enfin, George W. Bush et Ariel Sharon ont fait un immense bras d'honneur à leurs partenaires, vous savez, la feuille de route, les Européens, les Russes, les représentants des Nations Unies. Mais aussi, bien sûr, aux Palestiniens, et avant tout à eux, et à tout le monde arabo-musulman qui tient cette affaire pour le symbole de leur relation avec l'Occident. En effaçant la frontière virtuelle de 1967, ils commettent un acte aux conséquences incalculables. Eh oui, on ne pouvait pas s'attendre avec George W. Bush à grand-chose. Vous savez, c'est un va-t-en-guerre. Lui, dès que ça bouge quelque part, on y va. Hein, on y va. Tiens, ça me fait penser à un autre président plus proche de nous, qui, vous savez, étonnamment, il est complètement parti dans un toit guerrier. Il y a quelque chose qui bouge quelque part, pam, on fait la guerre. On fait la guerre, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop pour qui, ni pour combien de temps, ni combien ça va durer, combien ça va coûter, mais on fait la guerre. Il paraît que c'est la meilleure solution pour être populaire. Je n'en suis pas certain. Revenons à notre ami Arnaud. Arnaud, alors encore une reprise. J'ai pas pu m'empêcher de mettre des reprises parce que je trouve qu'il les fait tellement bien. Alors celle-là, c'est un certain Salvatore Adamo qui l'a écrite et c'est Arnaud que nous allons entendre maintenant.
Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était...
Eh bien, j'espère que vous l'écouterez en entier, parce qu'on ne peut pas écouter toutes les chansons en entier d'Arnaud. On écoutera la dernière, qui sera donc la prochaine, en entier. Et pour terminer, ça sera une chanson de lui, hein, quand même, parce que je lui ai fait quand même beaucoup de reprises. Donc, ça sera « Les yeux de ma mère », qui est un enregistrement public, d'ailleurs, je crois. Pour en terminer rapidement avec 2004, évidemment, il s'en est passé beaucoup de choses. Alors bon, je n'ai pas le temps de vous dire tout. Il y aura quand même un petit hommage à Jacques Chirac. Pourquoi pas, oui, parce que c'était notre président de la République. Et puis, il a fait un truc qui était pas mal quand même en 2004. C'était quand il a été, vous savez, pour célébrer le débarquement de Normandie. Il a eu la grande intelligence, je trouve, d'avoir invité le chancelier allemand. Et donc, ils se sont rendus sur les tombes des soldats allemands également. Ça, c'était un beau geste. Ça, c'était pas mal, notre Jacques. On le regrette hein, quand même, hein, quand on voit ce qu'on a après. Nous allons parler d'autre chose. Alors, en cinéma. Vous savez qui a reçu la Palme d'Or à la surprise générale? Eh bien, c'est un brûlot contre la politique de Bush. C'est Michael Moore avec, qui reçoit la Palme d'Or. Alors là, on ne s'y attendait pas du tout avec Fahrenheit 9-11, si vous voulez. Voilà, on quelques films que je vous cite rapidement, puis après on va réécouter notre ami Arnaud. Il y a Goodbye Lenin, un film superbe sur la fin de la RDA, l'ancienne Allemagne de l'Est. Il y a Julie Depardieu qui obtient une récompense dans La Petite Lily. Il y a aussi Omar Sharif, le vieux monsieur Omar Sharif, pour Monsieur Ibrahim et Les Fleurs du Coran, un bien beau film d'ailleurs. Voilà, quelques mots sur 2004 et on retourne avec Arnaud parce que le temps passe vite et il va nous parler, un peu comme dans Mother Little Helper d'ailleurs, de sa mère, mais à lui.
Quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, et quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Ah. ma mère, elle m'écoute toujours. Quand je suis dans la merde, elle sait quand je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels. That's the end of that message from the Foreign Office.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylone, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non. Album d'histoire.
Le show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.